Ce dimanche 21 janvier, l'Église célèbre le dimanche de la parole de Dieu et pour en parler, nous sommes très heureux d'accueillir le vicaire épiscopal pour le Pays Basque intérieur, l'abbé Jean-Paul Martinon. Bonjour.
Igounon, Alexandre.
Alors, c'est plus en tant que spécialiste de l'Écriture sainte, puisque vous êtes licencié en Écriture sainte, que nous vous invitons aujourd'hui. Alors, pourquoi le pape François, en 2019, a-t-il voulu instituer un dimanche de la parole de Dieu?
Eh bien, le pape François, il se situe finalement dans la suite de tous les papes et du Concile Vatican II, où il s'agit en fait de remettre la parole de Dieu au centre de la vie de l'Église. Et il a voulu lui accorder une place privilégiée, un dimanche de l'année. Et en fait, cette décision, si on s'en souvient, eh bien, elle trouve son origine, c'était lors du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Le pape avait alors demandé, eh bien, dans un texte qu'il avait écrit pour ce jubilé, eh bien, il avait demandé que l'on pense à un dimanche entièrement consacré à la parole de Dieu pour comprendre, je le cite, l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple. Et finalement, suite à cette très très belle idée qui s'est concrétisée, eh bien, il a reçu de part et d'autre, il le dit, plusieurs demandes pour que l'on puisse célébrer en unité d'intention le dimanche de la parole de Dieu. Et il le fait donc dans la suite des autres papes. On se souvient tout particulièrement du synode sur la parole de Dieu du temps de Benoît XVI, avec un beau texte qu'avait écrit ensuite Benoît XVI, Verbum Domini. Et puis en fait, il y a toute une série de textes même très importants des papes qui, tout au long du 20e, du fin 19e et 20e siècle, eh bien, peu à peu, l'Église catholique a sans doute mieux pris conscience de l'importance de la parole de Dieu et comment elle doit être au centre de la vie de l'Église. On a des grands textes, bien sûr, le grand texte, c'est la constitution dogmatique Dei Verbum, pardon, au Concile Vatican II, en 1965. Voilà, c'est un grand texte. Et ensuite, plusieurs textes qui ont suivi. Jusque, mais voilà, cette décision d'instituer par ce motu proprio un dimanche de la parole de Dieu.
Alors, ce dimanche de la parole de Dieu, il est désormais donc institué le troisième dimanche du temps ordinaire chaque année. Et il se trouve que ce dimanche tombe toujours pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Est-ce que c'est un hasard?
Une grâce sans doute. Une grâce sans doute, puisque eh bien, c'est justement une période où nous sommes invités à renforcer les liens avec les autres confessions chrétiennes, pour l'unité des chrétiens. Donc, en fait, cette période-là, elle a encore plus une valeur œcuménique, parce que l'Écriture sainte, c'est sans doute ce qui nous rassemble à tous, quelles que soient nos différences, nos divisions dans l'histoire. La parole de Dieu, le Christ, Verbe fait chair, c'est celui qui nous unit et qui nous rassemble. Donc, moi, je pense que c'est une grâce que ça se situe à cet endroit-là de l'année liturgique.
Alors, vous l'avez souligné, abbé Jean-Paul Martinon, depuis la réforme du Concile Vatican II, la réforme liturgique, la parole de Dieu a une plus grande place dans la liturgie. On parle maintenant de la table de la parole et de la table de l'Eucharistie. Pourquoi?
Eh bien, ça se réfère justement au Concile Vatican II. Et particulièrement une constitution très importante sur la réforme de la liturgie, qui parle tout à fait clair de table de la parole et table de l'Eucharistie. Ensuite, il y aura bien sûr, on va retrouver ces termes-là dans la présentation générale du missel romain. Alors, table de la parole, table de l'Eucharistie, eh bien, on se souvient que, dans l'Évangile même, l'homme, le Christ lui-même, va citer cette parole de l'Ancien Testament. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole, souvent dans l'Ancien Testament, elle est comparée parfois au miel, parfois voilà, les prophètes qui comparent la parole de Dieu à ce rouleau que le prophète est invité à manger pour goûter cette parole. Il y a comme une espèce, il y a une longue tradition dans la vie de l'Église de cette manducation de la parole de Dieu. C'est vraiment pour pouvoir l'intérioriser et s'en nourrir. Et ce qui est très beau, c'est que dans la réforme liturgique, nous avons retrouvé un meuble qui avait été abandonné sans doute tout au long de l'histoire. Nous avons beaucoup d'églises qui sont magnifiques, mais dont l'architecture, c'est celle de l'époque où elles ont été construites, embellies, agrandies, celle du Concile de Trente. Et justement, tous les fidèles se sont aperçus qu'au lendemain du Concile Vatican II et de la réforme liturgique, eh bien, il y a un nouveau meuble, voilà, qui est apparu un peu partout. Donc ce qu'on appelle l'ambon, hein. Et donc l'ambon, c'est vraiment la table de la parole, et c'est bien cette parole de Dieu qui a pris de plus en plus d'importance, non seulement dans la vie de l'Église, mais aussi dans la liturgie, et en plus de manière tout à fait visible dans les meubles, puisqu'il y a l'autel, il y a l'ambon, table de la parole, table de l'Eucharistie, et dans pas mal d'églises où on a quand même, comment dire, on s'est imprégné des textes du Concile, rejoignant la longue tradition de l'Église, eh bien souvent dans l'art, la table de la parole et la table de l'Eucharistie, eh bien sont dans le même style, se répondent l'un à l'autre, puisque c'est le Christ, Verbe fait chair, parole faite chair, qui se donne à entendre, à manduquer, et qui se donne dans l'Eucharistie.
Alors, on dit souvent que nos frères protestants connaissent mieux la parole de Dieu que nous, les catholiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement les catholiques connaissent mieux la parole de Dieu?
Effectivement, nos frères protestants, eux, depuis de longs siècles, donc, se sont vraiment recentrés sur la parole de Dieu. Et je pense que finalement, leur quête, leur recherche a stimulé aussi, côté Église catholique, finalement, cette prise en compte plus importante de la parole de Dieu, des Écritures saintes. Et donc, ça se voit bien sûr dans toutes les études d'interprétation de la Bible. L'interprétation des Écritures saintes, etc. Chez nos frères protestants, ils avaient sûrement une longueur d'avance. Quand on regarde par exemple la longue histoire de l'exégèse allemande, dont on sait que c'est un pays où il y a beaucoup d'églises réformées, calvinistes. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est justement la parole de Dieu, peut-être qui nous rassemble encore davantage avec nos frères des églises réformées calvinistes, des églises protestantes. Et qu'est-ce que l'on peut faire donc
Il y a eu
pour...
quand même un gros travail, même chez nous, pour mettre la parole de Dieu à disposition des chrétiens, des catholiques.
Ah mais complètement, complètement. Et depuis la fin du... En fait, finalement, lorsqu'on regarde l'histoire, je ne la détaillerai pas ici, mais depuis la fin du 19e siècle, tout au long du 20e siècle, il y a eu un travail très, enfin, énorme qui a été accompli dans l'Église catholique. Et... Depuis le Concile Vatican II, vraiment par tous nos évêques, le pape, etc. Et donc il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent pour donner l'accès à la parole de Dieu, à travers tout simplement des revues. Alors bien sûr, chacun les connaît, mais il y a des nouvelles revues qui sont apparues, comme Prions en Église, Magnificat, des nouvelles, et puis bien d'autres. Et puis des applications aujourd'hui sur les smartphones, des sites internet où on peut retrouver la parole de Dieu. Et je crois qu'elle fait partie de plus en plus de la vie de l'Église. Il y a même des mouvements de spiritualité qui ont redécouvert cette longue tradition de l'Église aussi, qui est l'approche de la parole de Dieu. Par une lecture méditée, ce qu'on appelle la lectio divina. Aujourd'hui, même dans la vie de l'Église, eh bien, nous sommes invités très souvent dans tous les groupes qui peuvent se réunir, qu'il s'agisse, je ne sais, d'un conseil pastoral, d'une équipe liturgique, d'une équipe quelconque de la paroisse, eh bien, de prendre un moment pour lire la parole, peut-être même la parole du jour de la liturgie, et d'essayer eh bien de s'en imprégner, d'écouter bien ce que le Seigneur a à nous dire et à nous éclairer.
Alors, je l'ai dit au début, Abbé Martinon, vous êtes licencié en Écriture sainte. Comment faut-il lire la parole de Dieu? Certains chrétiens la lisent de manière littérale, notamment aux États-Unis. Y a-t-il des méthodes spécifiques pour bien lire la parole de Dieu?
Je vous répondrai que nous avons un document qui est assez intéressant sur cette question que vous me posez précisément. Vous savez qu'il existe une commission pontificale biblique, qui réunit des grands experts de la parole de Dieu, enfin des Écritures saintes, dont fait partie aussi l'un des prêtres du diocèse de Dax, le père Pierre de Berger. Et En 1993, cette commission a édité un document que j'invite à lire, on peut la retrouver très facilement sur Internet, qui s'appelle Interprétation de la Bible dans l'Église. Je répète, Interprétation de la Bible dans l'Église de la Commission pontificale biblique en 1993. Et en fait, ce document est très intéressant parce qu'il liste un certain nombre d'approches ou de méthodes exégétiques et la Commission pontificale biblique les évalue. Elle les évalue et elle montre aussi la diversité des approches qui, comme des projecteurs différents sur un même texte, peuvent lui donner encore plus de sens. Alors il y a des méthodes, il y a certaines approches qu'on appelait vraiment des méthodes, d'autres des méthodes d'analyse littéraire, pardon, et puis la méthode historico-critique, il y a des méthodes d'approche par les sciences humaines, des approches sociologiques, psychologiques, psychanalytiques. Bon, elles n'ont pas toutes la même valeur, mais ce document, de manière assez simple, eh bien, donne voilà, un certain recul de l'Église. Toutes ces méthodes qui sont utilisées pour étudier des textes de l'Antiquité ou pour étudier d'autres types de textes, il y a même des approches, elle nous parle même d'approches contextuelles comme l'approche libérationniste, féministe, etc. Mais c'est très important, dans ce document, il y a une seule lecture qui est refusée par l'Église et qui peut être parfois très tentante, parfois dans une expérience croyante, on peut avoir des fois ce type d'approche sans s'en apercevoir, mais elle est refusée par l'Église, c'est l'approche, entre guillemets, fondamentaliste des textes, c'est-à-dire une approche beaucoup trop littérale du texte qui refuse d'admettre, eh bien, que cette parole de Dieu, elle a été inspirée, elle a été exprimée dans un langage humain et qu'elle a été donc rédigée sous l'inspiration divine. Elle n'est pas directement la dictée de Dieu sans intermédiaire et c'est donc reconnaître l'incarnation de cette parole de Dieu dans une culture, dans un langage, dans une voilà. Et donc c'est très dangereux. Je veux dire, on peut instrumentaliser parfois un texte lorsqu'on l'aborde sans prendre le recul de son simple contexte historique, parfois même de manière un peu magique. Voilà. Je crois que c'est sur cela qu'il faut faire attention. Et par contre, ce que l'Église encourage de plus en plus et qui est le patrimoine, je le disais tout à l'heure, qui est le patrimoine de l'Église et dont les premiers pères de l'Église dans les premiers siècles, eh bien, nous parlent, c'est la Lectio Divina. On sait qu'elle remonte au père de l'Église et que Saint Benoît, au VIe siècle, va même l'introduire dans la règle qu'il rédigera pour ses moines. Et la Lectio Divina, c'est ce que je disais, c'est cette manducation de la parole, alors de manière, enfin avec une méthode un petit peu précise, qui peut aider. Et je crois que cette année de la foi et de l'appel a donné lieu à la rédaction d'un document. Dans ce document-là, si l'on veut eh bien s'y référer, on nous donne quelques indications sur cette approche qui est une approche méditée de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs types d'approches du texte biblique qui ne s'excluent pas les uns les autres, mais qui s'enrichissent les unes au contact des autres. Voilà, mais seulement il y en a une qui est refusée par l'Église, c'est une lecture fondamentaliste ou trop littérale du texte.
Merci beaucoup, Abbé Jean-Paul Martineau. On aurait pu bien sûr dire beaucoup d'autres choses sur la parole de Dieu, et notamment parler peut-être aussi de la communauté juive, et notamment peut-être aussi de la place des psaumes dans la parole de Dieu, parce que bon, c'est quand même eux qui ont commencé à écrire la Bible.
Complètement. Et je veux dire, nous avons, n'oublions pas, Alexandre, que nos racines sont juives. Hein. Et le Christ lui-même, lorsqu'on voit, si on ouvre le Nouveau Testament, vraiment, comment dire, il y a un profond écho de tout ce que nous appelons l'Ancien Testament, de la Torah, c'est-à-dire qui correspond à notre Pentateuque, des cinq premiers livres de la Bible, des prophètes et des écrits de sagesse. Et nos frères, eh bien, juifs sont aussi pour nous, justement, ben, une référence dans cet amour de la parole de Dieu, dans leur lecture méditée de cette parole de Dieu qui est une parole de vie. Et c'est vrai que chez nous, peut-être, vous savez, chez les catholiques, pendant de longs siècles, nous n'avions pas ce rapport direct aux Écritures, même si nos cathédrales par l'art. C'était une espèce de Bible ouverte pour beaucoup de gens qui n'avaient pas non plus l'accès ni à la lecture ni à l'écriture. Nous n'étions pas à la même époque, nous n'avions pas tous ces moyens si faciles, tous ces médias qui peuvent nous faire accéder au texte. Et le fait qu'on se réapproprie depuis la fin du 19e siècle, surtout depuis le Concile Vatican II, encore davantage, c'est pas encore rentré dans toutes les maisons. Vous savez, moi je suis aussi curé de paroisse, je l'ai dit le jour de mon installation, combien je souhaiterais que cette parole de Dieu puisse entrer dans les maisons, dans les familles, qu'on puisse la méditer, qu'on n'attende pas forcément des réunions paroissiales pour plonger dans les textes, mais vraiment qu'elle fasse partie de la vie de nos familles et de l'initiation, voilà, même des parents à leurs enfants, il y a tellement d'outils qui existent. On n'imagine pas. Et des outils très bien faits pour pouvoir aborder les textes de l'Écriture, pour pouvoir accéder même à cette culture biblique. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a un énorme chantier sur ce plan-là. Et c'est vrai que nos frères juifs, nos frères protestants, eux, ça fait partie de leur culture, et de leur culture même familiale. Voilà, il y a certaines liturgies familiales dans les familles juives et chez les protestants, c'est vraiment un texte qu'on a sur sa table de chevet. Mais chez les catholiques aussi, de plus en plus, je crois. Quand vous regardez, beaucoup de gens, soit sont abonnés ou pas abonnés, mais vous disent que quand même, ils lisent, lorsqu'ils partent travailler, ils lisent le texte de la parole de Dieu du jour, ça les nourrit. Je pense que il y a eu un tel effort que les plus jeunes générations, sans doute, qui suivent le chemin du Christ, sans doute s'y accroche peut-être davantage, mais aussi dans toutes les générations, lorsqu'on regarde de plus près. Mais comme je souhaiterais que ça soit aussi une lecture qui ne soit pas que personnelle, mais qu'on puisse aussi eh bien l'approfondir en famille. Et je crois que pendant la Covid, ça a été aussi une occasion d'encourager cette liturgie autour de la parole de Dieu. Et donc, moi je suis, enfin, comment dire, optimiste. Il faut toujours du temps pour que ça rentre dans les mœurs. Mais lorsqu'on goûte cette parole de Dieu, eh bien, on peut plus faire comme avant, quoi. C'est vraiment une nourriture pour chaque jour, pour notre vie.
Merci beaucoup, Abbé Jean-Paul Martinant, un très bon dimanche de la parole de Dieu à tous nos auditeurs.